Terroir Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 11 octobre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord les titres. Le président américain Joe Biden assure Israël de son appui sans réserve face au mal à l'état pur. Le bilan s'alourdit dans la guerre entre Israéliens et Palestiniens, des milliers de morts au total. Au Niger, départ des premiers militaires français vers le Tchad, les États-Unis coupent leur aide à Niamey. Air France rétablit sa desserte du Mali après 2 mois de suspension. Au Libéria, élection présidentielle sans incident majeur hier. À Madagascar, le président Rajoel lance la campagne pour sa réélection dans un contexte tendu. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Joe Biden endossant sans réserve le rôle de premier soutien d'Israël a martelé hier dans un discours vigoureux qu'il aiderait l'État hébreu à se défendre face à ce qu'il a qualifié de mal à l'État pur. Le président américain l'a dit mardi lors d'un discours à la Maison-Blanche. Précision de John Lydon.
Peu avant ce discours, le président américain s'était entretenu avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a évoqué une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah, selon une vidéo de leur entretien publiée par ses services. Il y a dans l'existence des moments où le mal à l'état pur frappe le monde. Le peuple d'Israël vient de vivre l'un de ces moments par les mains couvertes de sang de l'organisation terroriste Hamas, a dit le président américain. Le groupe islamiste palestinien a qualifié ses propos d'incendiaires et accusé le président américain de vouloir dissimuler ce que le Hamas a appelé les crimes d'Israël. Nous devons d'être absolument clairs. Nous tenons aux côtés d'Israël, a dit Joe Biden, en présence de la vice-présidente Kamala Harris et du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui se rendra jeudi dans l'État hébreu en signe de solidarité et de soutien, ainsi qu'en Jordanie. Le président américain a confirmé que des citoyens américains se trouvaient parmi les otages du Hamas et a par ailleurs fait état d'un nouveau bilan de 14 Américains tués. Selon le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan, Washington reste sans nouvelles de 20 ressortissants, voire davantage.
Dans son entretien téléphonique avec le président Biden, le premier ministre israélien avait ajouté « des centaines de massacres, des familles anéanties dans leur lit, dans leur maison, des femmes brutalement violées et assassinées, plus d'une centaine d'enlèvements. Ils ont pris des dizaines d'enfants, les ont ligotés, brûlés et exécutés. Ils ont décapité des soldats. » Dans la région même, le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse, avec déjà plus de 3000 morts de part et d'autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens, 5 jours après l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. Fatouma Kalala Alimassi.
Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza en état de siège et pilonné par les raids israéliens. Et dans le nord, l'armée israélienne a frappé la Syrie et le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié l'offensive massive lancée samedi par le Hamas contre Israël de sauvagerie jamais vue depuis la Shoah, promettant que son pays allait vaincre avec de la force, énormément de force. L'attaque a provoqué la sidération en Israël où elle est comparée aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. L'offensive a suscité de multiples condamnations internationales ainsi que des inquiétudes face à l'éventualité d'un assaut terrestre sur Gaza. L'État israélien, qui a annoncé l'évacuation des zones frontalières, a imposé un siège total à Gaza et suspendu l'approvisionnement en eau, en électricité et en nourriture de l'enclave palestinienne. Il a mobilisé 300 000 réservistes et déployé des dizaines de milliers de soldats autour de Gaza ainsi qu'à sa frontière avec le Liban. Le bilan des attaques en Israël est passé à plus de 1200 morts, a annoncé mardi soir l'armée israélienne, qui a annoncé en outre mardi avoir récupéré les corps de 1500 combattants du Hamas dans les zones voisines de Gaza. Plus de 2800 personnes ont été blessées et 50 personnes sont officiellement recensées comme otages ou disparues. Du côté palestinien, 830 personnes sont mortes selon les autorités locales. Le Hamas a annoncé que deux de ses hauts responsables avaient été tués par des frappes israéliennes. 8 journalistes palestiniens ont également été tués. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, menace de son côté d'exécuter des otages enlevés en Israël, parmi lesquels des jeunes capturés pendant un festival de musique. Les combattants qui ont fait irruption samedi dans ce festival y ont massacré 250 personnes, dont des enfants, des bébés, des gens âgés. Ils ont aussi tué plus de 100 personnes dans le seul kibboutz de Be'eri, selon l'ONG Zaka qui a participé à la collecte des corps.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les premiers soldats français ont quitté le Niger dans un convoi terrestre sous escorte locale. Dans le même temps, les États-Unis qualifient officiellement de coup d'État la prise du pouvoir par les militaires et suspendent leur aide au Niger. Les détails avec Nani Talani.
Un convoi de soldats en provenance de Tabari Barré est arrivé mardi à Niamey avec des poids lourds transportant du matériel et des blindés, selon l'AFP. La destination finale des convois français n'a pas été officiellement communiquée, mais selon des sources proches du dossier, ils devraient ensuite prendre la direction de la capitale tchadienne N'Djamena, où se trouve le commandement des forces françaises au Sahel. Toujours mardi, les États-Unis, qui comptent quant à eux quelques 1100 soldats au Niger et une importante base de drones à Agadez, ont formellement qualifié la prise de pouvoir par les militaires de coup d'État. Washington a annoncé en conséquence la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique. Les États-Unis vont en revanche et pour l'instant garder un millier d'hommes au Niger. Un autre responsable américain a indiqué que ces soldats n'assistent plus et ne forment plus activement les forces nigériennes, mais continuent à surveiller la menace djihadiste.
La compagnie Air France va recommencer à desservir le Mali à partir de vendredi, mais avec un avion et des équipages d'une compagnie tierce. Le transporteur aérien avait suspendu cette ligne début août dans la foulée du putsch au Niger voisin, Claire Morin-Gibourg.
Les vols Paris-Bamako vont reprendre à partir de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à compter du 13 octobre, selon un porte-parole de la compagnie qui a précisé que la décision a été prise en coordination avec la Direction générale de l'aviation civile française et les autorités maliennes. Air France a suspendu ses 7 vols hebdomadaires à destination du Mali et ses 5 vols à destination du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet. Air France a dit travailler en étroite collaboration avec les autorités burkinabées pour reprendre au plus vite la desserte vers le Burkina Faso. Les 3 vols directs par semaine seront assurés par un Boeing 777 de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways, ainsi que leurs équipages, car le ministère français des Affaires étrangères déconseille toujours formellement aux Français de se rendre au Mali, y compris les membres d'équipage, en raison de la situation sécuritaire.
Les Libériens ont voté mardi sans incident majeur pour choisir leur futur président, le sortant et ex-star du football mondial George Weah, partant favori face à 19 concurrents. Madagascar, le président sortant, Ange Rajoel, promet une vague orange couleur de son parti à la présidentielle de novembre. Il a fait cette déclaration lors du lancement officiel de sa campagne devant plusieurs milliers de partisans dans la capitale Antananarive. Alexandrine Hollognon.
Allez dans tout Madagascar pour créer une vague orange. Personne ne pourra nous ôter la victoire, a déclaré le président sortant devant une foule dans la banlieue d'Antananarive. Le premier tour du scrutin le 9 novembre sur la grande île de l'océan Indien se prépare dans un climat tendu. Des rassemblements de l'opposition sont empêchés depuis plus d'une semaine. Le mois dernier, 10 candidats de l'opposition ont dénoncé un coup d'État institutionnel orchestré par le pouvoir. Une manifestation convoquée par 11 candidats de l'opposition les 2 et 3 octobre a été dispersée par les forces de sécurité à coups de gaz. Les manifestations qui ont suivi les 6 et 7 ont également été réprimées. Des dizaines de manifestants et des passants ont été arrêtés. Andre Rajoel, 49 ans, a accédé au pouvoir en 2009 à la faveur d'une mutinerie qui avait chassé le président de l'époque, Marc Ravalomanane, qui est lui aussi candidat.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le bureau de la BAD à Conakry et l'ONG Dare to Innovate ont lancé le projet de renforcement de la résilience des petites et moyennes entreprises en Guinée, au Ghana et au Bénin, dont la moitié sont dirigées par des femmes. Le projet, que la BAD subventionne à hauteur de 924 807 dollars, contribuera à renforcer les capacités de 4 500 micro, petites et moyennes entreprises, soit 1750 en Guinée, 1750 au Ghana et 1000 au Bénin. Le Fonds monétaire international et le Ghana sont parvenus à un accord au niveau des services sur la première revue d'un programme de 3 milliards de dollars de prêts. Cela ouvre la voie à un décaissement de 600 millions de dollars pour Accra une fois que le conseil d'administration l'aura approuvé, a annoncé le fonds. Pour terminer, l'entreprise italienne Eni espère parvenir à une décision d'investissement finale sur son deuxième projet flottant de gaz naturel liquéfié au Mozambique d'ici la fin du mois de juin de l'année prochaine, ont annoncé mardi 2 sources directement impliquées dans le projet. Son premier projet de gaz naturel liquéfié, appelé Coral Sul, a fait du Mozambique un producteur et un exportateur mondial de ce gaz. Le nouveau projet devrait encore renforcer la production du Mozambique.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Kelvin Kiptum me dit n'avoir aucun plan pour courir sous les 2 heures.
Je n'ai aucun plan pour courir sous les 2 heures, mais plutôt pour améliorer mon record personnel, a déclaré le Kenyan qui a battu le record du monde du marathon de son compatriote Eliud Kipchoge dimanche à Chicago en 2h00:35. Kelvin Kiptum, âgé seulement de 23 ans, et encore inconnu il y a un an, a avalé les 42,195 km en 34 secondes de moins que son aîné, redéfinissant les limites de l'épreuve reine de la course sur route. Chaque athlète est heureux de représenter son pays et j'ai hâte de courir le marathon aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, a ajouté Kiptum, de retour au Kenya, affirmant vouloir dans l'immédiat se reposer pour revenir plus fort l'année prochaine. Je n'ai pas reçu de message personnel d'Eliud Kipchoge, mais si je suis sélectionné pour participer aux JO de Paris, je serai prêt à courir avec lui, a conclu Kelvin Kiptum.
L'UEFA renonce à la réintégration des équipes russes de jeunes dans ses compétitions.
L'instance européenne du ballon rond a décidé d'abandonner son projet de réintégration des équipes russes dans ses compétitions de jeunes, selon un porte-parole de l'UEFA. La FIFA, qui avait elle aussi levé la semaine dernière la suspension des équipes russes des moins de 17 ans, n'a pas souhaité faire de commentaires. La fédération ukrainienne a immédiatement réagi en remerciant l'UEFA pour sa décision. L'UEFA avait justifié sa volonté de réintégration des équipes russes de jeunes par le souci de ne pas punir les enfants pour des actes dont la responsabilité incombe exclusivement aux adultes. Toutes les équipes russes avaient été exclues le 28 février 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine en accord avec la FIFA.
Eden Hazard raccroche les crampons.
Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel, a écrit sur Instagram l'attaquant belge de 32 ans. Eden Hazard a fait ses débuts en Ligue 1 à 16 ans avec son club formateur Lille. Il passe ensuite 7 saisons à Chelsea de 2012 à 2019, arrivé au Real Madrid en juillet 2019 pour 115 millions d'euros. Le milieu offensif collectionne les blessures. Il n'a inscrit que 7 buts pour le Real en 76 apparitions, toutes compétitions confondues, avant de résilier en juin dernier son contrat qui expirait en 2024. Avec le club merengue, il a remporté 2 titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et une Ligue des Champions.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les États-Unis ont formellement qualifié de coup d'État mardi la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet. Washington dit avoir épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'ordre constitutionnel au Niger et a annoncé en conséquence la suppression de quelque 500 millions de dollars d'aide économique. Cette décision tombe au lendemain d'un entretien téléphonique du secrétaire d'État Anthony Blinken avec le président déchu Mohamed Bazoum. Les États-Unis réitèrent leur appel à la libération de M. Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues. Eric Manirakidza a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Je suis un peu surpris parce que pour l'Amérique, le développement économique en Afrique, c'est plus important que d'autres dossiers. Et ça montre que président Biden donne une très grande priorité en Afrique à la démocratie, à la transparence. Et j'en suis très content. C'est un moyen de dire à tous les autres pays africains que l'argent des États-Unis est réservé pour les pays démocratiques. Et malgré l'importance pour nous de développement économique, c'est très important en Amérique. Quand même, notre argent est réservé pour les pays qui ont des systèmes démocratiques et transparents. Et j'en suis très content.
Est-ce que ça signifie que cette décision pourrait aussi entraîner d'autres coupes d'aide, notamment en matière de sécurité?
Oui, ça peut entraîner ça, mais pour le moment, je ne vois pas d'autres pays qui reçoivent notre aide militaire qui sont en même temps des pays autoritaires. Je peux être dans une erreur là, mais en général, je crois que la coopération militaire est réservée pour les pays qui sont en Afrique, aux pays où nous avons un espoir que la démocratie va être en état de croissance.
Qualifier un pouvoir de coup d'État, est-ce que c'est synonyme de reconnaître un coup d'État?
Oui, oui, c'est-à-dire nous avons eu un changement de régime et c'était à cause d'un coup d'État. Donc, ça ne veut pas dire que nous acceptons que ce soit légitime. Mais il y a des moments où il faut travailler avec le régime en place, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts militaires et c'est souvent nécessaire de travailler avec le régime en place. Regardons le Mali, qui est là à cause d'un coup d'État, et plusieurs d'autres. Et il faut reconnaître la situation qui existe, n'est-ce pas? Et il faut poursuivre vos intérêts dans le contexte des situations qui existent.
Ça veut dire que le retour au pouvoir du président Bazoum n'est plus une option?
À mon avis, ce que le secrétaire d'État Blinken a dit, c'est nous souhaitons le retour au pouvoir du président Bazoum. Parce que c'est tragique si un président élu démocratiquement soit écarté. Par exemple, au Gabon, il y a un coup d'État contre une famille qui était au pouvoir pendant 50 ans. Je peux voir quelque chose de positif là-dedans. Mais écarter un président démocratiquement élu, ça c'est une tragédie et il ne faut pas l'accepter.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Human Rights Watch accuse les autorités rwandaises d'être responsables de meurtres, d'enlèvements et de tentatives d'enlèvements, de disparitions forcées et d'agressions physiques visant les Rwandais installés à l'étranger. L'ONG appelle la communauté internationale à lutter contre ce qu'elle qualifie de répression extraterritoriale. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, dément ces accusations. Yacouba Ouédraogo a joint dans le Vermont, dans le nord-est des États-Unis, Louis Madge, directeur Afrique centrale de Human Rights Watch.
Il y a des cas d'assassinats. Il y a des gens, particulièrement en Afrique du Sud, par exemple, qui étaient en fait tués. Il y a les liens jusqu'à Kigali. Mais aussi, on a écrit plusieurs choses par rapport à les menaces, les kidnappings, tentatives de kidnapping, les gens qui étaient vraiment menacés là où se trouvent, même en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Les parents de ces gens-là qui continuent d'être menacé sur le sol rwandais. Donc c'est vraiment un effort de la part de Human Rights Watch pour montrer que cette répression continue 2017 jusqu'à aujourd'hui.
Qui réprime ces personnes-là et pourquoi?
Le qui, en termes d'individuels, c'est difficile d'établir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout vient à la base, selon nos sources et selon les recherches, tout vient de Kigali. C'est les gens qui ont le lien avec l'ambassade de Rwanda. C'est les gens qui parlent bien sûr le canon Rwanda. C'est les gens qui ont menacé les gens. Ils ont dit trop tard, tu reviens au Rwanda. Ou bien pourquoi vous êtes contre le FPR, le parti de pouvoir actuellement au Rwanda. Et vous allez voir, on va vous amener encore au Rwanda. Donc c'est difficile d'établir vraiment qui, mais ce qu'on peut dire, c'est à la base, ça vient de Kigali. Et le pourquoi, les gens qui sont ciblés, ils sont soit opposants, ou bien c'est les gens qui sont présumés d'être opposants. Ça veut dire que peut-être c'est un réfugié rwandais qui a refusé de s'intégrer dans la diaspora. Ça veut dire le groupe dirigé par le ministre des Affaires étrangères pour diriger les affaires de diaspora.
Porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makulu, a dit que ce rapport porte des accusations qui sont fausses et que vous avez une image du Rwanda qui ne reflète pas le vrai Rwanda et donc l'image réelle du Rwanda. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Lorsque nous avons publié par rapport de les gens qui sont détenus à Kwagachinya, à Kwakabuga, ils ont dit les mêmes choses. Lorsque nous avons publié par rapport il y a des années sur les gens qui sont torturés à Camp Kami, c'est la même chose. Ils ont utilisé mot par mot exactement les mêmes choses. Ils ont continué avec le même chantage.
Est-ce que vous avez eu une réaction de la part du gouvernement rwandais par rapport à ce rapport?
Non. Il y a deux mois, nous avons partagé le bilan de notre rapport avec le gouvernement rwandais dans une lettre très longue de plus de 25 pages. On a détaillé toutes les recherches, on a demandé des questions, on a demandé l'audience. Nous avons envoyé une équipe le mois passé à Kigali pour parler avec la Commission nationale des droits de l'homme. Malheureusement, de la part de Kigali, c'est le silence radio.
Louis Madge, directeur Afrique centrale de Human Rights Watch.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
L'offensive du Hamas contre Israël a surpris beaucoup dans le monde, mais ne laisse aucun pays indifférent. Les réactions des Guinéens avec notre correspondant en Conakry, Zakaria Camara.
Ils condamnent avec la dernière énergie pour que Israël doit se défendre. Ils doivent finir avec le Hamas. Ils doivent éradiquer le Hamas. Parce que c'est trop, c'est trop.
La Palestine est souvent soutenue par le monde arabe, bien sûr. Et l'Israël aussi est soutenu par les États-Unis. Et une fois que les deux se font des conflits, ça pourrait dégénérer des préjudices dans le monde entier.
Les Palestiniens sont en train de défendre leur territoire. Hein? Prenez juste... la mosquée Bayt al-Muqaddas qui se trouve en Jérusalem. Hein? Cette mosquée appartient à qui? Aux musulmans. On interdit les musulmans de venir prier ici, dans cette mosquée. Hein? C'est les juifs qui interdisent les musulmans de prier dans leur mosquée. Si la Palestine frappe l'Israël, elle a raison. Elle a raison. Elle est en train de défendre son territoire.
Moi, je comprends un peu la motivation du Hamas qui défend la cause palestinienne. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Palestine, c'est, disons, une nation qui est marginalisée, qui est colonisée en quelque sorte par Israël. Et les enfants de ce pays, la population de ce pays, aujourd'hui, a soif de justice. La justice, c'est d'être un État indépendant vis-à-vis d'Israël. Et cela n'est pas encore acquis.
Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de nos frères de la Palestine. on ne peut pas utiliser la population civile. Parce que ce que je vois dans les images, je vois des vieilles personnes de plus de 80 ans, 85 ans. Je vois des jeunes gens, des femmes, des enfants. Et nous savons tous que même en temps de guerre, normalement, c'est une couche vraiment vulnérable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne peut en aucun cas s'en prendre à une population civile pour légitimer sa position ou plutôt pour les utiliser comme des boucliers humains.
Beaucoup estiment que la Palestine a été victime de plusieurs décennies d'injustice. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que c'est quand même un pays qui s'est aussi distingué dans des réactions assez disproportionnées. Et tout simplement parce que au début c'était l'intifada. On pouvait comprendre, mais aujourd'hui, si on utilise le même procédé que les terroristes, je crois que cela ne peut pas être soutenu. La Palestine aussi est en train de s'inscrire dans la logique de la violence, et une violence qui fait des victimes innocentes. Et je pense que cela ne peut pas continuer à être encouragé.
C'était des réactions recueillies à Conakry, en Guinée, par notre correspondant Zakaria Kamara. Le soutien de l'Iran au Hamas est scruté après l'attaque surprise du mouvement palestinien contre Israël. Plusieurs centaines d'Israéliens et de Palestiniens ont été tués. Henry Ridgewell, de la VOA à Londres, a fait le point. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
L'attaque du Hamas contre Israël samedi a pris la plupart des puissances régionales par surprise, mais de nombreux analystes affirment que l'Iran aurait approuvé l'assaut à l'avance. Nina Khatib est la directrice de l'Institut du Moyen-Orient de l'Université de Londres.
Depuis plusieurs années, l'Iran soutient le Hamas en le finançant, en l'entraînant et en lui fournissant des équipements militaires. La décision d'entrer en guerre des groupes comme le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique et d'autres ne peuvent se produire qu'avec l'accord explicite, préalable et direct de l'Iran. Mais cela est très différent de l'affirmation selon laquelle l'Iran a ordonné à ces groupes de commettre ces attaques.
L'Iran a qualifié les actions du Hamas de « manifestation de la résistance », mais a nié toute responsabilité. Le président israélien, Isaac Herzog, a blâmé un axe maléfique dont la base est en Iran. Les responsables israéliens affirment qu'il n'y a pas de preuve directe que Téhéran a dirigé l'attaque. Khaled Elinji, de l'Institut du Moyen-Orient à Washington.
Il s'agit d'une opération lancée par un groupe palestinien qui a ses motivations propres. Le Hamas n'est pas un agent ou un mandataire du régime iranien, bien qu'il puisse y avoir des convergences d'intérêts.
Quel intérêt l'Iran aurait-il à ce que le conflit entre le Hamas et Israël reprenne ? Les alliances géopolitiques évoluent rapidement. L'Arabie saoudite et Israël tentent de normaliser leurs relations diplomatiques avec le soutien des États-Unis. L'autorité palestinienne, un rival interne du Hamas, participe au pourparlers. De nouveau, Linda Khatib.
L'accord implique que l'Arabie saoudite discute avec l'autorité palestinienne. Le Hamas n'a pas participé à cette discussion et a donc estimé avant tout qu'il devait faire partie de toute solution au conflit israélo-palestinien. Il s'agit donc d'un contexte géopolitique dans lequel le Hamas et aussi son soutien, l'Iran, veulent intervenir dans l'agenda politique.
Pendant ce temps, les négociations de Téhéran avec l'Occident sur un retour à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien sont dans l'impasse. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré dimanche qu'il n'y avait pas encore eu de preuve directe de l'implication de l'Iran dans l'attaque du Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi que la réponse de son pays allait changer le Moyen-Orient, mais il n'a pas précisé ce que cela signifiait.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.